بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، سعيد بلقائكم. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche le 2 du mois Dhul-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 19 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble Risala, très bénéfique et très profitable, malgré qu'elle soit concise et que ce soit à la base une conférence qui a été donnée par Cheikh Abdullah Al-Bukhari, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, qu'il a intitulé « Ma hiya salafiyya ». Qu'est-ce que la salafiyya ? Donc, cette risala, à travers les 5 points que nous avons déjà vus ensemble, nous avons pu comprendre ce que c'est la voie salafi et que c'est en réalité tout simplement l'islam qui a été pratiqué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et tel qu'il a été pratiqué par le prophète alayhi wa sallam ainsi que ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et c'est l'islam qu'Allah aime et agrée jusqu'à la fin des temps. Car en réalité, il n'y a qu'un seul islam, comme il n'y a qu'une seule voie droite. C'est l'islam sur lequel était le prophète alayhi sallam, et la voie droite, c'est la voie du prophète alayhi sallam et de ses nobles compagnons, qui consiste à suivre le Coran et la sunna authentique et de les comprendre comme ils étaient compris par nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons. C'est pour ça, dans les fondements de la jurisprudence, nous étudions que l'avis sur lequel il y a unanimité des savants, l'avis sur lequel il y a unanimité des compagnons, il n'est pas autorisé de venir avec un nouvel avis, quand il y a unanimité des compagnons. Sur un avis, personne n'a le droit de venir avec un nouvel avis. Également, quand il y a divergence entre les compagnons sur un sujet religieux, et comme vous savez, il n'y a pas de divergence entre les compagnons dans aucun fondement de la croyance. La divergence, c'est dans des questions de la jurisprudence, principalement. Et ça peut être dans des questions qui sont liées au fondement de la croyance, et non pas dans les fondements de la croyance. Les divergences que nous trouvons dans les fondements de la croyance, c'est uniquement entre les suiveurs de la sunna et les innovateurs. C'est pour ça, celui qui ne se conforme pas à un des fondements de la salafia, ce n'est pas un salafi. Un salafi, c'est celui qui suit Al-Sunnah wal-Jama'a dans tous leurs fondements, dans tous les usul. Et quand il y a une divergence entre les compagnons, en 2 avis par exemple, il n'est pas autorisé de venir avec un 3e avis. Forcément, la vérité, elle est dans un des 2 avis. Et elle ne peut pas être dans les 2 avis. Car la vérité, comme a dit l'imam Malik, elle est unique. Al-Haqq wahid. Et c'est pour ça, quand ils divergent, nous devons essayer de trouver l'avis qui nous semble le plus proche de la vérité de ces 2 avis et de le suivre. Et là, on se rend à l'avant-dernier point dans lequel Cheikh Hafidhahullah a parlé, le sixième point, dans lequel il a parlé de certaines caractéristiques et signes de la voie salafie ou de la salafia. C'est la même chose que de dire la salafia ou la voie salafie ou la méthodologie de salaf. Ce sont des appellations différentes pour la même chose. Il a dit « An-nuqtatu s-sadisa, dhikru ba'di simati wa ma'alimi l-manhaj s-salafi ou s-salafiyya. » Donc il va citer quelques caractéristiques des suiveurs de la voie salafie. Et de là, et ça, Cheikh l'a bien expliqué avant, là qu'il est toujours utile de le rappeler, que le suivi de la salafia, c'est pas avec des slogans, c'est pas avec des prétentions, c'est une réalité. Et c'est une méthodologie qui doit se concrétiser et se traduire dans nos actes et dans nos pratiques et dans nos croyances et dans notre compréhension de la religion. Salafi, ce n'est pas celui qui dit qu'il est salafi. Salafi, c'est celui qui suit la voie de salaf, réellement. Et non pas seulement avec ses propos. Et il les contredit dans sa pratique. Donc salafia, c'est une science et sa mise en pratique. Ilmun nafi' wa 'amalun salih. Et ça, c'est les deux qualités de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Ceux qui ont regroupé entre la science bénéfique et profitable et la mise en pratique pieuse et acceptable. Qu'Allah nous l'accorde à tous. Il a dit « تقرر مما مضى أن السلفية هي الصراط المستقيم » Il a été affirmé de ce qui a précédé que la salafia, en réalité, c'est le chemin de la droiture. La salafia, c'est la voie droite, tout simplement. Man salakaha naja, wa man tarakaha dalla wa rawa wal iyadu billah. Celui qui emprunte la voie salafie sera sauvé. Et celui qui la délaisse sera égaré et il sera également déviant. Qu'Allah nous en préserve. لذا فلهذا المنهج المبارك ولهذه الدعوة المباركة جملة كبيرة من المزايا والسمات البارزة. C'est pour ça cette méthodologie bénie et cette da'wa bénie a un grand nombre de caractéristiques et de signes distinctifs qui sont clairs et apparents. Yani, ce n'est pas des choses cachées. C'est des choses qu'on constate facilement. وَهِيَ بِاخْتِصَارٍ سِمَاتُ وَمَعَالِمِ دَعْوَةِ وَمَنْهَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا غَيْرِ. Et en résumé, ces caractéristiques de la voie salafie, en résumé, ce sont les caractéristiques de la da'wa et de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Yani salafia, en résumé, ces caractéristiques, c'est les caractéristiques de la voie sur laquelle était notre prophète alayhi wa sallam et sur laquelle il a été suivi par ses nobles compagnons. Lakin, comme vous êtes d'accord avec moi, et comme c'était le cas de l'anecdote de Juhayman et de tous les égarés qui se disent salafis. Yani, si vous parlez avec un tikfiri, il ne va pas vous dire qu'il suit autre chose que le kitab et la sunna, et même avec la compréhension de sahaba. Là, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il prétend. Est-ce qu'il les suit réellement? Famine, d'où l'importance de connaître les caractéristiques de cette da'wa. فمن معالم وسمات هذا المنهج أو هذه الدعوة السلفية أولا. Donc Cheikh va citer 9 caractéristiques seulement. La première caractéristique, qui est sans aucun doute la plus importante, تحقيق العبودية لله جل وعلا. La concrétisation de l'exclusivité de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc tawhid. La première caractéristique des adeptes de la sunna et des suiveurs de la voie salafi, c'est at-tawhid en premier. At-tawhid dans son apprentissage et dans son étude, car c'est une science qui s'apprend. At-tawhid dans sa mise en pratique. Et tawhid dans leur da'wa. Leur da'wa ou tawhid est quelque chose de très manifeste chez les adeptes de la sunna et les suiveurs de la voie salafi. Et c'est une da'wa détaillée. Car vous pouvez trouver des sectaires, des hizbiyyin, même des ikhwan, qui font des rappels sur tawhid, mais d'une manière globale. Et comme un de ces égarés en Arabie Saoudite a dit, un jour, quand il a été interrogé à ce sujet, c'est l'Arifi. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne fais pas de da'wa au tawhid, alors que tu as une éloquence, tu as beaucoup de gens qui te suivent, qui t'écoutent. Il leur a dit, j'ai une cassette dans laquelle j'ai parlé de tawhid. Il a un rappel dans lequel il a parlé de tawhid. Si vous revenez au cours de l'imam Mohammed Aman al-Jami, vous revenez au cours de l'imam Ahmed ibn Yahya al-Najmi, Zayd ibn Hadi al-Madkhali, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, et tous nos savants, Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh al-Haydan, regardez yani, l'importance qu'ils accordent au tawhid d'une manière pratique. Et la place qu'occupe cette science dans l'ensemble des cours qu'ils ont donnés durant toute leur vie. Yani, c'est la chose à laquelle ils accordent le plus d'importance. Et Cheikh Mohammed Amal Jami, même quand il était mourant, même pendant l'agonie, il n'a pas cessé d'appeler au tawhid. Les mashayikh qui lui ont rendu visite, il leur a rappelé l'importance d'appeler les gens au tawhid. Donc c'est une, parmi ses caractéristiques, la première, c'est at-tawhid. L'exclusivité de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler les gens à ce tawhid et de l'expliquer durant toute leur vie jusqu'à rencontrer Allah. Il n'y a pas un jour où nous allons arriver à un degré où on va arrêter d'appeler au tawhid. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des enseignants, avec les meilleurs des élèves, quand il est arrivé vers la fin de sa vie, où les compagnons ont atteint les degrés les plus élevés dans la foi, et dans la piété, et dans la compréhension de la religion, et en particulier à Tawhid. Il n'a pas cessé de leur rappeler l'importance de Tawhid et de les mettre en garde contre Shirk. Les derniers rappels que le Nabi a fait, c'est des rappels qui concernent Tawhid. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Notre mère Aïcha a compris qu'il mettait en garde contre cela. Ça, c'est parmi les derniers rappels que Nabi Aslam a fait avant de quitter ce bas monde. La mise en garde contre Shirk. Aujourd'hui, si tu fais une dizaine de cours sur Tawhid et la mise en garde contre Shirk, tu peux trouver des awam qui n'ont pas compris Tawhid, qui te disent, mais est-ce que vous doutez de notre Tawhid? Yani, on ne fait pas des rappels, on ne parle pas de Tawhid à des gens, seulement à des gens qui n'ont pas de Tawhid, ou qui ont des lacunes. Lakin, c'est une science importante que tu dois garder toute ta vie. Car le jour où tu t'éloignes de Tawhid, tu risques de tomber dans le shirk, et ça peut être la cause de la perdition, l'iyadu billah. Et rappelez-vous, mes frères, que la première fois qu'il y a eu un shirk sur terre, c'est après 10 siècles de la descente de Adam, alayhi salam, sur terre. 10 siècles après, il y a eu la première forme d'associationnisme à l'époque de Nuh, alayhi salam, dans le peuple de Nuh, alayhi salam. Et depuis ce jour-là, ash-shirk n'a jamais cessé. Malgré qu'Allah a envoyé pour la première fois un messager pour les gens de la terre, suite à l'apparition de la première forme d'associationnisme. Et depuis ce jour-là, ash-shirk n'a jamais cessé. Il ne cessera jamais jusqu'à la fin des temps. D'où le danger de shirk. Et de ne pas prendre ce sujet à la légère. Et de penser qu'on est à l'abri parce que, soi-disant, on a étudié Kitab Tawhid, on a étudié les trois fondements, on a étudié le Qawaid Arba. Ash-shirk ya ikhwa. Ce que je voulais dire, plutôt, at-tawhid, c'est la science qui te permet de connaître Allah. Est-ce qu'il y a une limite à la connaissance de la majesté et de la grandeur et de la beauté et de la sublimité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de limite à cette science. Car la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Donc cette science, yani on n'arrivera jamais à un degré où on va arrêter la da'wah. Si quelqu'un pouvait l'arrêter, ça aurait été le Nabi alayhi salam. Il ne l'a pas arrêté jusqu'à la fin de sa vie. Avec les meilleurs hommes de cette communauté. Ceux qui ont le mieux compris le tawhid et qui l'ont le mieux appliqué. Il ne l'a pas arrêté. Donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième, tahqiq ou tajrid il ittiba'i li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est, donc, tawhid, c'est la signification de la première attestation de foi. Et le deuxième point, forcément, c'est la signification de la deuxième attestation de foi. Regardez les points qui sont les sujets de l'alliance et du désaveu de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. C'est les deux attestations de foi. C'est les choses les plus importantes en islam. Lakin, si vous allez dans des sectes égarées, chez des sectaires, vous allez trouver que les points qui sont sujets de l'alliance et du désaveu en premier, ce n'est pas ces points-là. Prenons un exemple de Jama'at Tablir. C'est quoi la chose la plus importante pour Jama'at Tablir, cette secte égarée? C'est Al-Khuruj. C'est pour ça, si tu es un étudiant en sciences, tu étudies la religion, tu as voyagé pour étudier, tu fais Qiyam al-Layl. Tu jeûnes le jeudi, le lundi, allez, tu peux citer tout ce que tu veux. Tu n'arriveras pas à un degré élevé chez eux jusqu'à sortir ce qu'ils appellent Khuruj fi sabilillah. Mais en réalité, jusqu'à sortir de la voie d'Allah. Ce n'est pas sortir dans la voie d'Allah. C'est Khuruj an sabilillah, vers l'innovation. Car il n'y a pas de Khuruj pour les ignorants en islam. Les hommes de science, effectivement, ils peuvent sortir pour faire la da'wah. Amma l'ignorant, il reste dans sa ville pour apprendre sa religion. Ou il voyage dans un autre endroit pour apprendre la religion. S'il n'y a pas d'homme de science dans son pays. Amma, il ne sort pas pour appeler les gens. Il va les appeler à quoi? Celui qui n'a pas la science et la clairvoyance, il va faire plus de mal et de dégâts que de bien. Et il va appeler les gens à des innovations et des égarements. Et ce n'est pas son rôle à lui. S'il veut faire une da'wah, il l'a fait dans sa famille, avec ses parents. Il leur apprend les choses qu'il a apprises avec science. On ne dit pas qu'il doit attendre de devenir un homme de science pour faire la da'wah. Vous savez qu'il y a un avis qui dit que da'wah est une obligation individuelle. La majorité des savants disent que c'est une obligation collective. Mais il y a un avis chez Al-Sunnah al-Jama'ah qui dit que la da'wah est une obligation individuelle. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire par ça que tu dois faire da'wah dans tous les cas selon ta capacité, selon tes moyens et selon ta science et tes disponibilités. Car da'wah, on la fait pas seulement avec l'enseignement et la dispense de la science. La da'wah, on peut la faire en distribuant des livres, en distribuant des audios. en faisant un rappel sur un point important. Quelqu'un qui néglige la salat, quelqu'un qui a des erreurs dans le tawhid, on l'oriente vers les hommes de science. Ça, c'est une forme de da'wah. C'est ça qui est une obligation individuelle. Amma de donner les cours ou hachi, ça reste le devoir des hommes de science. Et il faut obligatoirement qu'il y ait des hommes de science dans la communauté qui remplissent cette obligation. Sinon, tous ils sont dans le péché. C'est ça le sens de l'obligation collective. Al-fard al-kifay. S'il n'y a pas assez d'hommes de science qui le remplissent et qui suffisent, alors tous ceux qui sont capables sont dans le péché. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le suivi exclusif du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc, leur modèle et leur exemple et celui qu'ils suivent d'une manière absolue, c'est An-Nabi, alayhi salatu wassalam. Comme il n'adore que Allah, il ne l'adore que conformément à ce que son prophète leur a enseigné. Amma, toute personne en dehors de Nabi, alayhi salam, on doit s'assurer que ce qu'il nous dit est conforme à la sunna du prophète, alayhi salam, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Et le vivant n'est pas à l'abri de l'égarement, comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Fa'inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna. Et là, on voit certains, ça me fait penser à certains ignorants ou peut-être certains manipulateurs qui prennent les gens par les sentiments et qui disent que yani, à chaque fois il y a quelqu'un qui s'égare, à chaque fois il y a des nouvelles positions, hadith, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car notre devoir c'est de suivre la vérité et d'être avec les gens de la vérité, et s'il y a quelqu'un qui dévie de la voie de la vérité, quand bien même il était dedans avant, on doit le conseiller et le prendre par la main pour le ramener sur la vérité. Et s'il s'obstine, il refuse, on doit s'écarter de lui. Hada, yani, dans ces choses, dans ce domaine, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... avec qui que ce soit. C'est le moyen de préserver la vérité dans sa clarté et dans sa beauté. Salaf, ils ont mis en garde certains contre le... Ils ont mis en garde contre leurs parents. Comme ils ont rapporté de l'imam Ali ibn al-Madini. Certains ont mis en garde contre leurs fils. Comme il a été rapporté de l'imam Abu Daoud al-Sijistani. Yani, c'est dans ce domaine, il n'y a pas de place au sentiment. Oui, mais à chaque fois, il y a l'égarement. Et Akhil Nabi Aslam nous a informé que vers la fin des temps, yani, le nombre des savants de la sunna ils seront peu nombreux, l'ulama. Et regarde à cette époque. Et quand les gens ne suivent pas l'ulama, forcément, ils vont suivre des têtes de l'égarement. Ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Wallahi, c'est incroyable ce que nous vivons à notre époque. Avec ces réseaux sociaux, une cause d'un mal immense pour la communauté. S'il y a du bien dans ces choses-là, c'est qu'il y a un mal immense pour la Ummah. Il y a des gens ignorants qui ont plus de suiveurs que l'ulama. Est-ce que vous vous rendez compte? Un grand savant, ce n'est pas un alim seulement, qui barre l'ulama. Et vous allez trouver qu'ils ont beaucoup moins de suiveurs et de personnes qui suivent leurs cours, que certaines personnes qui ne savent même pas s'exprimer en langue arabe. Si nous nous disons que celui qui fait des erreurs dans Nahou, Allahu A'lam, comment il doit comprendre, comme je l'ai entendu de notre cheikh Abdurrahman Kouni, Hafidhahullah wa Shafahullah, قال, هذه كلمة جميلة, يمكن أن تحفظ, قال, أعجب لمن يلحن كيف يفهم. Je m'étonne de celui qui fait des erreurs dans le nahou. Comment il comprend? Lena, si tu mets le fatha à la place de dhamma, comment tu vas comprendre que c'est celui-là le sujet qui fait l'action? ou là le complément qui subit l'action. Si tu changes le harakat, comment tu vas le savoir? Pour ça, il a dit, je m'étonne de celui qui commet l'ahn, comment il comprend? Alors, que dire de celui qui n'a pas la langue arabe? Comment il doit comprendre la religion? Et on trouve des personnes comme ça, qui ne savent pas s'exprimer correctement en langue arabe et qui ont énormément de suiveurs, yani beaucoup, beaucoup plus que les plus grands savants de notre époque. Et ça, c'est parmi les signes de la fin des temps. An-Nahad, les têtes ignorantes, seront pris yani comme des références. Il n'y a pas de mal à profiter de tes frères qui t'ont devancé dans l'apprentissage et qui ont appris un petit peu plus que toi. Et de s'entraider entre frères, ça c'est nécessaire et c'est important. Lakin, à condition que chacun reste à sa place. Et chacun parle seulement des sujets qu'il maîtrise. Had, les gens, à force d'avoir un très grand nombre de suiveurs, ils se croient tout permis. Ils parlent de tout. Yani les grandes fitanes qui touchent la Oumma en entier, à chaque fois, et même tu vas les trouver en général, ils sont derrière les nouveaux événements. À chaque fois qu'il y a une fitna quelque part, vous allez trouver qu'ils sont à la tête. Et les premiers à en parler, même avant les savants. Fanasalullah salam al-afir. Le troisième point, thalithan, luzum wa fahm as-salaf as-salih radiyallahu anhum lil adillati ash-shar'iyya wa adam al-khuruj 'an dhalik. Donc regardez comment Cheikh il va citer les trois piliers de la méthodologie salafie en premier. Tout d'abord, il a cité tawhid, la signification de la première attestation de foi. Ensuite, il a cité le suivi du prophète Aïssa Salam. Yani, la signification de la deuxième attestation de foi. Et en troisième point, il va citer un élément capital et fondamental dans cette méthodologie que la plupart des sectaires et des hizbiyines rejettent et n'acceptent pas. C'est la compréhension des pieux prédécesseurs, des arguments religieux, et de ne pas sortir de leur compréhension. Quand on a leur compréhension des textes, on doit s'en tenir à celle-ci et ne pas venir avec une nouvelle compréhension. Car leur compréhension, c'est la compréhension qui a été à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges à leur compréhension des textes. Et ceux qui les ont suivis, ils sont dans le bien tant qu'ils se tiennent à leur compréhension. Et à le point de la compréhension, vous allez trouver qu'il y a énormément d'égarés qui ont beaucoup de mal avec ce point. Ils ne l'acceptent pas. Ils disent, mais pourquoi on va se tenir à leur compréhension? Ils sont des hommes et nous, on est aussi des hommes. Et les temps changent. Et les époques ont changé. C'est plus le même temps qu'à l'époque du prophète A.S. Les données ont changé. Donc on doit avoir une nouvelle lecture des textes, c'est-à-dire falsifier l'islam. C'est ça la nouvelle lecture. Cette religion, elle est valable pour toute époque et tout pays, tout endroit, jusqu'à la fin des temps. Car cette religion, c'est la révélation d'Allah. Ce n'est pas une loi humaine qu'on a besoin d'adapter et de modifier et d'accommoder toutes les 10 ans. Non, ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette législation, c'est la loi divine, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est valable jusqu'à la fin des temps. Et effectivement, étant donné qu'on a parlé de c'est plus les mêmes temps ou le hadith ou là plus les mêmes données, il faut savoir, ya ikhwa, que dans la religion nous avons deux choses. Nous avons ce qu'on appelle le thawabit, yani les points fondamentaux, les points invariables, Par exemple, l'interdiction de riba, riba il sera interdit jusqu'à la fin des temps. L'interdiction de l'alcool, l'alcool sera interdit jusqu'à la fin des temps. L'interdiction de zina. Donc ça, c'est des points invariables. Lakin, on a d'autres points qui sont variables en fonction du temps et des contextes et des situations. Et ça, c'est, pour vous résumer, ça, c'est les avis des hommes de science qui ont été donnés par rapport à certaines questions, leurs réponses par rapport à certaines questions, en tenant compte d'un certain contexte. Si le contexte a changé, Al-Fatwa peut changer, effectivement. Lakin, eux, ils vont venir avec ce point pour l'appliquer sur des fondements et des points invariables de la religion de l'islam. Les fondements de l'islam. Au sujet des fondements, salat, c'est salat, jusqu'à la fin des temps. Le jeûne, c'est le jeûne. Et ainsi de suite. Lakin, l'imam Malik, à son époque, par exemple, a fait un effort personnel par rapport à une question en tenant compte des éléments de son époque. Si Cheikh Saleh Al-Fawzan, à notre époque, a émis un avis différent en se basant sur les changements de l'époque, ça c'est acceptable. Lakin, ça n'arrivera jamais dans ce qu'on appelle thawabit. Le quatrième point, al-hadharu wa tahdhiru min al-bid'ati wa al-mubtadi'a. Ça, c'est le quatrième point. Et Cheikh l'a mentionné en quatrième position pour son importance. C'est l'outil de la préservation de l'islam. D'être en garde soi-même et de mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Regardez comment Cheikh il est précis. Allahumma barik. حَفِظَهُ اللَّهُ وَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ. Il y en a d'être en garde soi-même. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un rappel pour nous à chaque fois qu'il y a des troubles, à chaque fois qu'il y a des gens qui dévient, des gens qui s'égarent. Le premier rappel que tu dois, et la première leçon que tu dois tirer de la déviance d'une personne, c'est d'avoir peur pour ta personne. Et non pas de se croire à l'abri. Personne n'est à l'abri. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. D'avoir peur, et surtout quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup de science, quelqu'un qui était décrit comme un alim, il devient l'ennemi de l'ulama aujourd'hui. Il dénigre l'ulama, qu'il considérait comme ses chouyours et comme ses pères dans la science. Aujourd'hui, il dit d'eux des choses graves, qu'ils ne valent rien, que la passion s'est emparée d'eux, qu'ils ont suivi la passion en vieillissant, que ce sont des menteurs, des traîtres. Yani, regardez le changement de quelqu'un qui était décrit comme un savant. Et Hadas, ils disent de lui, c'est un alim, naam. Lakin, regardez aujourd'hui, il a orienté ses flèches vers les salafis qui suivent la même voie sur laquelle lui il était. Wallah ya ikhwa. Sachez que la plupart de ses suiveurs aujourd'hui, c'est des gens qui ne l'acceptaient pas avant son changement. Wallah, est-ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vues avec mes propres yeux. Ils assistaient jamais à ses cours. Et c'est nous qui étions dans ses cours. Car on voyait de lui l'amour de l'ulama, le respect de l'ulama. Combien de fois j'étais présent personnellement et il a refusé de donner une locution, un rappel, en présence d'un de ses savants. En présence de Cheikh Rabir, il a refusé à plusieurs reprises. En présence de Cheikh Ubaid, il a refusé à plusieurs reprises. En présence de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, également j'étais présent. Il a refusé. Il m'a dit à l'époque, إِذَا جِئْتُمْ إِلَى النَّهْرِ كَفَاكُمُ السَّوَاقِ. Si vous venez à la rivière, ça vous suffit. سَوَاقِ, يعني les gouttières. Et c'est pour ça, les salafis l'aimaient et l'élevaient pour son amour pour le manhaj salafi et pour sa fermeté sur cette voie. Lakin, Al-Hayy, père, le vivant, n'est pas à l'abri de l'égarement. Et en général, comme j'ai entendu de notre cheikh Abdurrahman Kouni, par rapport à ce changement, par rapport à cette déviation, à cet égarement, il a dit, ça, si ça indique quelque chose, ça indique, yani, des maladies dans le cœur qui se manifestent de cette manière-là. Et ça, ça m'a été rapporté par rapport à plusieurs personnes. Parmi ceux qui ont dévié, qui ont changé, quand ils sont interrogés par des gens intimes, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus comme ça? Leur réponse était « Dhunubul khalawat » les péchés qu'ils commettaient seuls, quand ils étaient isolés. En public, devant les gens, ils ont une apparence de piété, une apparence de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science, la force dans le manhaj, la force dans l'aqida, la science, hada huwa ce qu'il montre aux gens. Là, quand il est seul, il transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sans s'en soucier. Ça, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Il vaut mieux que tu aies peu de science et que tu la mettes en pratique. Et que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière quand tu es avec les gens comme quand tu es seul, dans ta maison où il n'y a personne qui te voit à part Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasallallahu salam al-afiyah. En tout cas, on est triste de l'égarement de toute personne. Et on est triste même des personnes qui refusent la guider. Parmi le kuffar, ça nous attriste. Lakin, ce n'est pas pour autant qu'on va faire des concessions et on va céder sur des choses de notre religion. Le croyant doit rester ferme sur cette voie et d'où l'importance de connaître la voie. Et que tu ne sois pas impacté par la déviance d'un tel ou d'un tel. Faut que tu connaisses la salafia. Faut que tu connaisses la voie salafie. Et que tu restes ferme sur cette voie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne permettes pas à quelqu'un de te mettre des doutes au sujet des savants que tu as connus par leur salafia et leur attachement à la vérité, jusqu'à venir avec des preuves aussi claires que le soleil en plein milieu du ciel. Laquelle aujourd'hui, on voit que des jeunes, facilement, ils sont troublés, sont déstabilisés. Oui, un tel, il a fait ça, un tel, il a... Et après, tu lui dis, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Nous avons une réponse globale qui sert à toute personne qui cherche à te mettre des ambiguïtés au sujet de l'ulama que tu connais par la salafia. Ce que tu lui dis, ce que tu me dis, je ne le connais pas. Yani, moi, qu'est-ce que tu me parles de l'infisali ou de l'intiqali ou là? Je ne suis pas au courant de ces choses-là. Lakin, je connais ces machaïrs que ce sont des machaïrs salafiyim. Alors, viens avec des preuves matérielles comme quoi ils ont dévié. Et je les accepterai. Amma, tu commences à me dire hada di. C'est de toi que je vais m'éloigner, en promis. Ça, c'est le quatrième point. C'est d'être en garde soi-même et de mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Il n'est pas question de mettre en garde contre l'innovation seule. Il faut mettre en garde contre les innovateurs, car l'innovation, et à Ikhwa, elle ne marche pas sur quatre pieds. Il y a forcément quelqu'un qui propage l'innovation. Il faut que tu mettes en garde contre... Il y a ni la mise en garde, bien évidemment. C'est pour ceux qui sont habilités à le faire. Lakin, la mise en garde contre les égarés et leur égarement. Les innovateurs et leurs innovations. Le cinquième point, al-wasatiyyatu bayn al-ghulou wal-jafa. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette caractéristique de al-sunnah al-jama'a. Ce juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Et ça, vous le voyez d'une manière manifeste. C'est certains qui se disent salafi, mais qui montrent un grand laxisme. il se mélange avec tout le monde, avec les Hizbiyin, avec Hadi. Et d'autres qui se disent salafi, mais qui ont de l'exagération dans leur comportement et dans leur attitude avec les gens. Ils mettent en garde sans qu'il y ait de raison valable de mise en garde. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils sont dans ce juste milieu. Entre l'exagération et le laxisme. Et tout ça sera détaillé par la suite. Le sixième point, Al-Thabatu ala al-Haqq, Allahu Akbar. Ma a'zamaha min khasla. Al-Thabatu ala al-Haqq, la fermeté sur la vérité. Al-Sunnah wal-Jama'a, parmi leurs caractéristiques les plus manifestes, c'est qu'ils sont sur la même voie. Ils restent fermes sur cette voie jusqu'à retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à chaque jour, ils viennent avec une nouvelle compréhension. Ils changent tous les jours. C'est pour ça, salaf, ils mettent en garde contre les débats et les polémiques et les querelles dans la religion. Car c'est des causes du changement, de talawun, de changer de couleur. Chaque jour, il vient avec un nouveau visage, une nouvelle couleur. Al-Sunnah, c'est la même voie et ils s'enferment sur la vérité jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, parmi les éléments de réponse utilisés avec ses frères qui étaient nos frères avant cette fitna de Ben Hadi et qui l'ont suivi par la suite, c'est de leur rappeler que nous sommes restés sur la même voie sur laquelle ils étaient eux, ainsi que leur cheikh. Et on n'a pas changé. Mais c'est eux qui ont changé. Mais sinon, c'est la même voie sur laquelle on était avant. On était tous. C'est pour ça que Cheikh Rabi a dit de cet homme qu'il a changé. Il n'est plus le même. Aujourd'hui, il met en garde contre des gens qu'il recommandait auparavant. Il fait les éloges, wallahi, de gens contre lesquels il mettait en garde avant. Wallahi, il le fait. Contre des chouyours en Algérie. Et ça, c'est pas quelque chose que je suis le seul à connaître. Tous les gens, et je vous parle de mon pays d'origine, le Maroc, tous les gens, même parmi ses suiveurs aujourd'hui, ils savent qu'ils mettaient en garde, par exemple, contre le Zahar Snekhra. Ils disaient, recevez-le et honorez-le, mais ne lui permettez pas de donner des cours dans le Dour al-Hadith. Ils nous disaient ça. Contre, allez, je ne veux pas citer les noms, pour ne pas avoir les problèmes. Lakin, si je vous cite la liste de tous ceux contre lesquels ils mettaient en garde, avant, aujourd'hui, on n'entend pas, bien évidemment, on n'entend pas des tezkiyat. Vous n'allez jamais entendre une tezkiyat de sa bouche, comme ça, claire et explicite. Lakin, quand tu vois ses suiveurs, ils sont autour de ces gens, comme Abu Abd al-A'la al-Misri. Cette personne qu'il détestait. Il n'aimait même pas être avec lui dans la même assise. Aujourd'hui, tu n'entends pas une tezkiyat. Lakin, tu vois que ses suiveurs, ils sont avec lui. Adlam, il est venu au Maroc. Ils l'ont empêché de donner une kalima. Il n'est pas le seul. Ils sont très très nombreux. Il y a des raisons. Bien évidemment, les mises en garde ou les choses, pour moi, elles étaient légitimes. Lakin aujourd'hui, il a changé. Le septième point, al-hirsu ala al-ijtima'i wa al-i'tilafi ala al-haqqi wa bil-haqq. Et ça, c'est un point. C'est un des fondements de Al-Sunnah wal-Jama'a. C'est leur attachement à l'union et l'accord entre les gens de la vérité, autour de la vérité et sur la vérité. Al-Sunnah ya ikhwa, ils donnent énormément d'importance à ce qu'ils restent unis. Ils vont multiplier les causes de l'union et s'écarter de toutes les causes de la division. Et ils vont tout faire pour rester en accord et s'éloigner des divergences, autant que possible. Sauf les divergences qui ne divisent pas. des divergences dans le fiqh, moi j'ai un avis par lequel je suis convaincu, toi tu as un autre avis par lequel tu es convaincu, et les deux c'est des avis de Al-Sunnah al-Jama'a. Ça c'est une divergence qui ne divise pas Al-Sunnah al-Jama'a. Lakin, il y a des divergences qui divisent. Des divergences entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation. Donc Al-Sunnah al-Jama'a, il donne énormément d'importance à ce fondement. Et ça, ce fondement, Cheikh Rabi' n'a cessé de le rappeler durant toute cette fitna. Depuis le début jusqu'à ce qu'il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a cessé de le rappeler l'union. Et je l'ai entendu de sa bouche depuis les premiers jours jusqu'à la dernière fois où des frères venant d'Algérie sont entrés chez lui. Il leur a recommandé la même chose que je l'ai entendu au tout début de cette fitna, leur recommande de rester unis et que leurs chouyours, c'est tous des chouyours de la sunna et de la salafia. Et s'il y a des divergences entre eux, qu'ils les règlent entre eux. Lakin, ils étaient appelés par les autres à se diviser et à ne pas s'asseoir avec eux. Car, et même, ils ont juré que, soi-disant, les autres ne reviendront jamais. Tu ne peux pas dire que quelqu'un ne reviendra pas vers la vérité et jurer sur ça. Allah guide qui il veut. Cet homme, dont les œuvres ont été rendues caduques et vaine, juste parce qu'il a dit à son ami qu'il conseillait régulièrement et fréquemment pour délaisser un péché, jusqu'à un jour où il lui a dit « Par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. Wallahi la yaghfirullahu lak. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man hadha alladhi yata'alla alayhi ?» Qui est celui-là qui jure que je ne pardonnerai pas un tel ? Je lui ai pardonné et j'ai rendu caduc toutes tes œuvres. Abu Huraira a commenté ce hadith en disant Takallama bi kalimatin, il a parlé avec une seule parole. Awbaqat dunyahu wa ukhra, qui a corrompu sa vie mondaine et sa vie dans l'au-delà. Avec une seule parole. Il lui a dit par Allah, Allah ne te pardonnera jamais. Non. Ça, c'est pas autorisé en islam de dire que quelqu'un ne sera pas pardonné ou là, ne sera pas guidé. C'est pas ton affaire et c'est pas de ton ressort. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons les causes de la guider. Et on ne doit jamais désespérer de la guider des gens et continuer à faire les causes. Car la guider à Ikhwa, elle a des causes et un temps. Nous détenons les causes. Mais le temps de la guider appartient à Allah. C'est Allah qui décide quand est-ce qu'il guidera cet homme. Il y a des gens, tu leur fais da'wah pendant 10 ans, après ils sont guidés. Des gens au bout de un jour, une heure, une semaine, un mois, c'est Allah qui décide. La guidée des cœurs appartient à Allah seul. Le 8e point, nabdhul furqati wal ikhtilaf. Le rejet de la division et du désaccord. Yanna, tu ne peux pas être attaché à l'union tout en appelant à la division. Forcément, l'attachement à l'union doit être suivi par un rejet complet de la division et de toutes ses causes. Et rappelez-vous toujours qu'on parle de la division entre les gens qui suivent la même voie. Amma, la division entre les gens de la vérité et les gens de l'égarement, ça c'est une division qui est demandée et par laquelle a été décrit le prophète alayhi salam dans le ciel par les anges. Ils ont dit « Muhammadun farqun bayna an-nas ». Dans une riwaya, « Muhammadun farraqa bayna an-nas ». Il a divisé les gens, lakin il n'a pas divisé al-sunna. Il n'a pas divisé les croyants. Il a divisé les croyants, il les a séparés de l'kuffar et al-sunna de l'mubtadi'a, et ainsi de suite. Le 9e et dernier point, Afwan, Cheikh a cité 10, j'ai dit tout à l'heure 9. Le 9e point, c'est le rattachement, et ce point il est très important. Al-hirsu ala tahsil al-ilm an-nafi' ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه. Donc le 9e point, regardez à Ikhwa, ça c'est une caractéristique de Al-Sunna wal-Jama'a. Si on veut être sur cette voie bénie, sur ce manhaj mubarak, alors il faut qu'on ait une part dans cette caractéristique, qui est l'attachement à la science bénéfique, yani à la demander et à acquérir la science bénéfique, et à la propager entre les gens et les appeler à cette science tout en faisant preuve de patience face au mal qu'on puisse subir d'eux. Là, si tu veux propager la vérité et propager la science, forcément on te fera du mal. Donc il faut que tu te prépares à patienter. Et celui qui œuvre pour Allah, il ne s'arrête pas de faire le bien. L'homme sincère, parmi les signes de l'homme sincère, c'est qu'il continue, même s'il subit du mal. Regardez le Nabi alayhi salam. Tout ce qu'il lui en fait, tout ce qu'il lui en fait, et il a continué à les appeler. C'est pas tu les appelles, ou là, dès qu'il t'insulte, ou là, il te dénigre, ou là, il te critique, à tort ou à raison, tu dis, je leur fais plus de da'wah, safi, ils ne méritent pas. Hada, ce n'est pas un homme sincère. Un homme sincère, il va continuer à faire le bien, même s'il subit du mal, il va patienter. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces hommes-là. Et le dernier point qu'il a mentionné, al-amalu bil-ilm. Donc l'ilm, et ensuite la mise en pratique. L'ilm doit précéder la mise en pratique. Il ne doit pas y avoir de questions chez les muslimines, normalement, théoriquement, malgré que la plupart des questions des muslimines, c'est de ce genre-là. Mais théoriquement, il ne doit pas y avoir de questions chez les muslimines. J'ai agi de cette manière et cette manière, est-ce que c'est bon ? Normalement, il doit poser la question avant d'agir. Babul qawli, babul ilmi, qabla al qawli wal amal. Normalement, la science, elle doit précéder la parole et la pratique. C'est pour ça qu'il a mentionné en 9e point la science et en 10e point l'amal, la mise en pratique de cette science. Donc, ces 10 points, c'est ce que Cheikh Hafidhahullah va détailler dans ce qui va suivre. C'est ce que nous allons voir ensemble, inshallah ta'ala, dans notre prochaine rencontre. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.